Bonjour et bienvenue, c'est Bruno et vous écoutez Easy Reader.
I want to reach you emotionally first. I want to make your flesh creep, I want to make your pulse race, I want to make your eyes tear up.
Je suis devenu romancier parce qu'un jour, quand j'étais gamin, j'ai ouvert un livre de Stephen King, que j'ai trouvé ça formidable d'avoir peur, que j'ai lu tout Stephen King, que j'ai eu très peur et qu'à un moment j'en voulais plus. Et je me suis mis du coup à écrire des histoires qui font peur.
Soyez les bienvenus et mettez-vous à l'aise. Dois-je vous rappeler le concept de l'émission ? Bon, certains le connaissent, mais pour les petits nouveaux, auteurs connus ou inconnus, oubliés ou inoubliables, à chaque épisode vous découvrirez avec moi le ou les premiers chapitres de livres fantastiques, d'horreur ou d'autres styles suivant mon humeur. Et je l'espère, je vous donnerai envie de plonger dans la lecture de ces ouvrages. Afin de rendre tout cela plus intéressant, je ne donnerai ni le titre ni l'auteur. Et ce ne sera que lors de l'épisode suivant que je vous dévoilerai le tout, accompagné d'un petit avis et d'un résumé. Avant de découvrir le nouvel ouvrage, il est temps de parler de l'épisode précédent. Il s'agissait de Je ne suis pas un serial killer de Dan Wells. Alors Dan Wells est un auteur américain, passionné de lecture dès sa plus jeune enfance. Il passe des thrillers à la SF et par les plus grands classiques français et russes. Il s'essaye très vite à l'écriture, script, chansons, poésie. Mais il devra attendre ses 32 ans pour achever son premier roman et enfin trouver le succès. Il s'agira de Je ne suis pas un serial killer. On y suit John Wayne Cleaver, un ado de 16 ans, persuadé d'être un serial killer en devenir. Son quotidien est rythmé par les règles qu'il s'impose pour ne pas laisser la bête en lui surgir, mais tout cela sera vite mis à rude épreuve par l'arrivée d'un tueur, un véritable monstre dans sa ville. Enquête, introspection, le jeune John Wayne ne s'en sortira pas forcément indemne. Un roman que j'ai beaucoup aimé, au style simple, épuré, avec quelques touches d'humour, et qui nous emmène dans les tréfonds de l'esprit particulier de cet ado. Un bon polar, très divertissant, mais qui m'a un peu perdu dans sa dernière partie. Je n'ai malheureusement pas lu les suites, au nombre de 6, et d'après ce que j'ai pu en voir et en lire, la saga s'oriente vers quelque chose qui ne me tente pas du tout, et c'est dommage. Enfin, il existe aussi, depuis 2016, une adaptation en film qui reprend assez fidèlement le premier ouvrage. Une série B honnête, vite vue, vite oubliée, mais dans laquelle on peut noter la présence de Christopher Lloyd. Et nom de Zeus, c'est peut-être une de ses dernières apparitions. Il est maintenant temps de partir à la découverte d'un nouveau livre de ma bibliothèque. Donc installons-nous bien dans le canapé, prenons un plaid, baissons la lumière, ouvrons le roman et commençons la lecture. Buddy aurait pu écrire le scénario de cette matinée avant qu'elle ne commence. Junior, son frère aîné, demanderait s'il pouvait se servir de la camionnette pour aller à la plage. Papa allait dire non, Junior discuterait. Papa sermonnerait, Junior se mettrait en rogne et dirait des gros mots. Papa ôterait sa ceinture et lui courrait après. Toujours la même chose. « On est en octobre, bien trop froid pour la plage !» dit papa si fort que le bébé eut peur dans son berceau et se mit à hurler. « Écoute cette mioche, » dit Junior, « on dirait une souris en chaleur. » Maman, tout en courant calmer le bébé, balança une gifle à Junior. « Fais attention à ce que tu dis dans cette maison, jeune homme. » « Pardon, maman. » Junior se tourna de nouveau vers papa, qui s'était replongé dans son journal et cherchait des raisons de rouspéter contre Kennedy, le plus lamentable démocrate qui ait jamais réussi à se faire élire président. « J'ai eu mon permis hier, » insista Junior. « C'est samedi, j'ai promis à mes copains. » « Tu as reçu ton permis un vendredi 13, » dit papa, sans lever les yeux de son journal. « Ce qui est bien la preuve que la superstition a raison parce que le jour où tu as eu ton permis est le jour le plus sinistre pour les conducteurs américains, sans parler des malheureux piétons américains sans défense. » Buddy entendait tout cela assis par terre, devant la télévision qui diffusait les dessins animés du samedi matin, avec le son tout bas pour ne pas gêner personne. Jusqu'à présent, papa plaisantait et Junior ne jurait pas encore, mais ça n'allait pas tarder. À moins que Buddy ne dise quelque chose. Comme toujours, Ce qu'il fallait faire était si vague dans son esprit qu'il ne savait même pas ce qu'il dirait. Mais il savait que ça marcherait, comme chaque fois, qu'il n'y aurait pas de cri, que papa ne prendrait pas sa ceinture et ne dirait pas des choses terribles qui feraient encore mal bien après que les marques des coups se seraient effacées. Alors très vite, il prononça les premiers mots qui lui passaient par la tête. « Papa, est-ce que je ne peux pas aller à la plage avec Junior ? Tu ne m'y as jamais emmené, la fois où tu avais promis en août. » Seulement maintenant, une fois les mots sortis de sa bouche, Buddy comprit où il voulait en venir. Sa mère, qui faisait téter le bébé à la cuisine, lança. « C'est vrai que tu lui avais promis, Homer. » Junior avait l'esprit vif. Il pigea tout de suite, presque aussi vite que Buddy lui-même. Ils s'entendaient toujours bien. Ils se comprenaient à demi-mot, les deux frères, et Buddy aimait ça. Comme s'il y avait un pipeline qui pompait les idées d'un cerveau pour les introduire dans l'autre. « Allez, j'ai pas envie d'emmener un petit môme de 10 ans quand même. Faut que je l'emmène ?» Papa mordit à l'hameçon. C'était de cela que dépendait le plan. Papa et maman se comportèrent exactement comme l'avait prévu Buddy. « Qu'est-ce que tu as, Junior ?» gronda papa. « Tu veux emprunter la bagnole de la famille, consommer de l'essence de la famille, et tu crois que tu peux faire ça sans aucune obligation familiale ? Tu te figures que le monde entier est à ton service et que tu n'as surtout pas à te gêner ?» Aussi simplement que ça, la discussion n'était plus de savoir si Junior pouvait aller à la plage avec la voiture, mais de savoir s'il devait emmener Buddy. Et comme Buddy savait que Junior l'emmènerait quand même, il ne risquait rien. « Ah, ça va, d'accord, je l'emmènerai, » bougonna Junior en prenant de mauvaise grâce les clés que lui tendait papa. Et il sortit sans faire du tout attention à Buddy. Mais une fois sur la route, Junior poussa un hurrah et accéléra à fond. « Ah, dis donc, merde, comment tu l'as embobiné, le vieux ? J'aimerais bien savoir comment tu fais. » Buddy se contenta de rire et de tourner le bouton de la radio pour passer de la station country de papa à de la bonne musique d'ado. Il ne pouvait pas presser simplement sur un bouton de présélection parce que papa piquait une rogne à chaque fois qu'il trouvait un de ses boutons réglés pour cette merde de rock'n'roll. Ils s'arrêtèrent pour prendre Todd, Dennis, Larry et Frank. Todd qui conduisait généralement à porter du bois à brûler, Dennis des hot dogs et Larry un grand sac de marshmallow. Frank fournissait la bière, tout un grand sac isotherme. Ils se servirent du bois pour camoufler la glacière à l'arrière de la camionnette. « Regardez-moi ça !» s'exclama Junior. « De la bière de la maison !» Ouvertement, pas de discussion, pas de faux papiers. J'ai du mal à croire que tes parents te laissent faire. Et pourquoi pas, répliqua Frank. Ils s'en foutent. Oh, je te crois, Frank. J'entends d'ici ta maman, dit Dennis d'une voix de fossé. Voilà ta bière, Frank. Ne bois pas tout à la fois. Ils se tordirent de rire. La maman de Frank passait ses journées à se plaindre et à gémir qu'il irait en enfer s'il prenait de mauvaises habitudes. Ils sont en voyage et ils ont laissé la bière, expliqua Frank. Puis, jetant un coup d'œil à Buddy, « Il va rapporter, lui ?»« Mais non, » dit Junior. « Mon cul, » grommela Frank. « Regarde-le, assis là, il regarde tout et qui ferme sa gueule. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Qu'il regarde le soleil et qu'il chante un opéra ?»« Je ne dirai rien, Frank, » promit Buddy. « En tout cas, t'en boiras pas, » répliqua Frank. « Alors ne va même pas y penser, ne respire même pas près de la glacière. »« Ok, » fit Buddy. Tout allait bien pour lui, Frank pouvait dire ce qu'il voulait, Buddy s'en fichait parce que Junior avait pris son parti. Aucun des copains de Junior ne le taquinait pour ça, d'ailleurs, car ils savaient tous ce que faisait Junior. C'était ok. Alors Buddy resta tranquillement à l'arrière avec Dennis et Todd, et il les regarda fourrer des Francfort dans leurs braguettes et rire de ce qui se passerait quand ils se mettraient debout et que les autres conducteurs les verraient. Naturellement, ils ne se levèrent pas et ils enlevèrent les saucisses la première fois qu'ils pensèrent qu'on pouvait les voir. Mais c'était rigolo quand même. Il leur fallut 45 minutes pour aller de Jacksonville à la plage de Topsail Island, en passant par Camp Lejeune. C'était une plage minable, sale et abrupte, avec le drapeau rouge des forces de se baigner. Mais elle n'était pas loin et d'ailleurs personne n'avait envie de se baigner. Ils firent une flambée aussi vite qu'on pouvait l'attendre d'anciens scouts, et en un rien de temps ils eurent ouvert la glacière et éclusé la bière aussi vite qu'on pouvait l'attendre de fils de sous-off des Marines US. Au début, ils étaient drôles. Ils racontaient des histoires drôles et des blagues cochonnes, et puis des blagues à la fois drôles et cochonnes. Mais au bout d'un moment, les histoires devinrent de plus en plus filandreuses et Frank menaça Buddy, si jamais il en soufflait mot. Et puis, Dennis et Larry commencèrent à se bagarrer et firent pleuvoir du sable sur les hot dogs. Buddy partit se promener le long de la plage. C'était un coin assez dangereux, avec un courant rapide qui passait devant l'île par le travers. Le sable était emporté, alors que la plage plongeait rapidement et les vagues étaient plus hautes et plus violentes que partout ailleurs sur les côtes de la Caroline du Nord. Plus tard, il aurait l'occasion de voir couramment des vagues de cette hauteur en Californie. Mais ce 14 octobre 1961, Buddy trouvait qu'elles étaient les plus énormes, les plus terribles du monde. Il ne pouvait en détacher ses yeux. Il voyait les rouleaux arriver du large, s'élever puis s'enrouler pour se briser et s'écraser à grand fracas sur la plage. Il s'imaginait à l'intérieur de la vague, au creux, comme un petit poisson, avec la muraille d'eau derrière lui et l'écume qui se rabattait par-dessus sa tête. Il sentait la puissance de l'océan comme si c'était sa propre force, son propre corps. Il mourait d'envie d'être dans l'eau. Pas pour nager, non. Il n'allait pas se rapprocher des brisants, mais il avait besoin de sentir le ressac déferler sur ses pieds nus. C'était trop dur de rester sur le sable sec avec des chaussures. Il lui fallait s'enraciner dans la mer. Même si l'eau était glacée, même s'il se faisait attraper. Il ôta ses souliers et les posa côte à côte, avec ses chaussettes dessus. Le vent était froid sur ses pieds nus et quand il avança, là où le sable était mouillé, ce fut encore plus froid. Au début, il resta là, où les vagues achevaient de mourir et venaient à peine le chatouiller. Il avait toujours aimé sentir le reflux qui aspirait le sable dessous ses pieds, comme si la terre se déplaçait vers l'océan. Le reflux était fort mais la marée descendait et en longeant la plage, il devait se rapprocher de plus en plus des vagues pour garder les pieds mouillés. Il crut entendre qu'on l'appelait. Quand il se retourna, le feu de camp était hors de vue. Il était allé plus loin qu'il ne le pensait. Alors il rebroussa chemin en courant, ses pieds nus éclaboussant autour de lui. « J'arrive !» cria Buddy. Mais quand il revit le feu, rien n'avait changé. Les garçons étaient tranquillement assis autour, sur leur veste. Buddy se sentit idiot d'avoir crié. Personne ne l'avait appelé, mais Junior se levait, venait vers lui en titubant un peu, ivre.
Qu'est-ce qu'il y a ? Bredouilla-t-il.
Rien, répondit Buddy, et il se retourna pour s'engager un peu plus dans le ressac, en renvoyant Junior d'un geste.
Quoi ? Cria Junior.
Buddy regarda son frère. Junior ne tenait même plus debout. Il chancelait, tout en essayant de garder son équilibre. Quand une vague s'écrasa juste derrière lui, Buddy hurla.
« Y'a rien, retourne là-bas !»
Junior cria quelque chose et agita un bras. Mais Buddy ne put l'entendre. Il sentit le déferlement de la grosse vague s'abattre contre ses mollets, le creux de ses genoux. Il était déjà allé trop loin. Cela devait être vraiment énorme. Il avait de l'eau jusqu'aux cuisses. Il se mit en marche vers la plage, mais ses jambes avançaient trop lentement et le reflux commença avant qu'il ait fait deux pas. Le sable s'écoula dessous ses pieds et il tomba à plat ventre, de l'eau par-dessus la tête. Il se débattit pour se redresser, rouler sur lui-même. Pendant une minute, il eut la tête hors de l'eau. Il entendit Junior jurer et se dit « Ce coup-ci, je suis bon pour les ennuis ». Puis son corps fut secoué par les brisants et il se sentit sérieusement entraîné. Il ne trouvait plus le fond. Il ne se rappelait plus de quel côté était la surface. Il n'avait pas d'air dans les poumons. Il n'avait pas eu le temps de les remplir avant d'être submergé. Tout à coup, ses pieds gigotèrent en l'air. Il était la tête en bas sans le savoir. Il se ramassa sur lui-même et rua des deux jambes. Sa tête émergea. Il ouvrit la bouche et respira, une grande bouffée d'air qui se termina par de l'eau dans son gosier. Il ravala, cracha et remonta à la surface en essayant de nager et de rester au-dessus de l'eau. Il était bon nageur. Papa s'était assuré que ces deux garçons deviennent de bons nageurs. Un rouleau le souleva. Pendant un moment, il fut assez haut pour voir sur la plage Junior qui enlevait sa seconde chaussure et se jetait à l'eau. « C'est bien, pensa-t-il, Junior va me sauver, tout sera ok. » Mais en glissant dans le creux de la vague, il se souvint que Junior était ivre. « Il ne pourrait sauver personne. Va-t'en, pensa-t-il, reste sur la plage. » Le courant avait déjà entraîné Buddy si loin que lorsque le rouleau suivant le souleva, le feu n'était plus qu'une minuscule flamme de bougie avec des ombres d'araignées sautant tout autour. Ce serait stupide de lutter contre le courant et d'essayer de gagner la plage. Il ne pouvait même pas nager en direction de la terre. Le courant l'emportait vers le sud, le long de la côte et au large. Son seul recours était de nager pour rester à flot et de tenter de se diriger vers l'ouest pour échapper au courant. Il était glacé. Ses vêtements étaient si lourds qu'il avait l'impression que des algues l'enlaçaient et le tiraient vers le fond. « Par ici !» Buddy regarda vers la côte, dans la direction qu'il croyait être celle de la côte. « Par ici, petit, vers le bateau !» Il pivota sur lui-même et aperçut un peu de rouge et de bleu. Un bateau de pêche, mais il était dans la mauvaise direction. Les vagues furent contre lui quand il essaya de se diriger vers le bateau. Il avait de plus en plus de mal à respirer, de l'eau s'engouffrait à tout instant dans sa bouche, jusqu'à ce qu'il respire de l'eau et s'étrangle. On ne peut pas nager quand on étouffe. Il coula, toussa convulsivement. Contre sa volonté, il aspira encore de l'eau dans ses poumons. Il avait l'impression d'avoir un point dur et glacé dans la poitrine. « Je vais mourir. »
mais alors qu'une réaction instinctive le tuait, une autre le maintenait en vie. Ses jambes continuaient de ruer, ses bras de nager, et il resta assis à la surface assez longtemps pour que les pêcheurs le saisissent, le hisse à bord, le couche sur le pont et presse l'eau hors de ses poumons. L'eau jaillit par son larynx, il eut des haut-le-cœur. C'était pire que vomir, plus douloureux, plus terrifiant que la noyade elle-même. Quand l'air se précipita dans ses poumons, cela lui fit mal. Et puis les grosses et fortes mains du matelot lui pressèrent de nouveau les côtes, lui faisant encore cracher de l'eau. Il s'étrangla, il voulut crier de douleur et enfin, il le fit réellement. Il était donc vivant. Si puissant que fût l'océan, Buddy l'avait vaincu. À ce moment, il se souvint. « Junior » cria-t-il. Les marins le retinrent. « Bouge pas, repose-toi un moment, petit. Mon frère !» Alors ils le laissèrent se relever, tandis qu'ils se précipitaient pour regarder. Respirant encore avec peine, Buddy les rejoignit à la rambarde, se tourna de tous côtés. Mais il devait scruter dans la mauvaise direction car Junior n'était pas là. Junior n'était pas non plus dans les autres directions, il n'était nulle part. Et quand les pêcheurs ramenèrent Buddy à Topsail Beach et qu'un homme le conduisit en voiture le long de la côte, où la camionnette était garée près du feu mourant, Junior n'était pas là non plus. Todd, Dennis et Larry avaient visiblement trop bu, mais ils étaient sérieux et graves. Frank tempêtait et criait que s'il ne l'avait pas retiré de l'eau, il aurait sauvé Junior et aussi le petit morveux. Buddy ne se vexa pas d'être traité de petit morveux. Il ne s'intéressait qu'à l'eau ruisselante des vêtements de Frank. Lui, au moins, il avait fait un effort. Les clés de la camionnette étaient dans la poche de Junior. Ils attendirent près d'une heure l'arrivée de leurs parents. À ce moment-là, ils avaient déjà fait des dépositions à la police et parlé à un journaliste. Personne n'avait eu l'idée de cacher la bière. Le reporter compta 22 petites bouteilles vides et deux qui ne l'étaient pas tout à fait. L'histoire était dans le journal le lendemain. Il y eut un service funèbre à la base navale. Tout le monde était en uniforme blanc de parade. Dans le temps, Buddy, en voyant ses uniformes, se sentait en sécurité. Maintenant, il savait qu'il n'était rien, comparé à la puissance de la mer, de petits hommes dans de petits bateaux. Avec de petits canons, il n'était rien. 15 jours après Noël, papa fut affecté comme conseiller pour entraîner les soldats sud-vietnamiens. La famille alla s'installer à Hawaï. Papa emmena Buddy à Topsail Island une dernière fois, la veille du départ. Il ne dit rien à Buddy et Buddy ne demanda rien. Mais ils savaient tous deux qu'ils allaient là-bas pour dire adieu. Ils n'échangèrent pas un mot pendant le trajet. Buddy revivait la dernière fois qu'il avait pris cette route. Il se voyait ouvrir le sac isotherme et jeter toutes les bouteilles dans le fossé une par une. Il se voyait assis sur le sable, en train de lacer ses chaussures au lieu de les ôter. Revenir vers le feu, il se voyait remonter avec les copains dans la camionnette et rentrer tous ensemble en riant. Ivre et stupide, mais vivant, bon Dieu. Papa se gara à l'endroit précis. Le bois à moitié calciné de leur feu était encore là, ou peut-être d'un autre feu. Les vagues s'écrasaient avec fracas, comme l'autre fois, mais il faisait encore plus froid et le ciel était lourd de nuages d'hiver. La mer, elle, était toujours la même. Elle se soulevait sous le ciel comme si elle cherchait à rejeter toute l'atmosphère de ses épaules, à briser chaque parcelle de terre pour que le monde entier ne soit plus que des rouleaux, des creux, des courants sans aucun brisant nulle part. Parce qu'il n'y avait rien, rien d'assez solide et fort pour briser la mer. Papa mit une main sur l'épaule de Buddy. « Mes deux garçons sont allés dans la mer, dit-il, mais la mer m'en a rendu un. Je remercie tous les jours ce Dieu miséricordieux, Virgile. » Buddy n'en remerciait Dieu de rien. Buddy ramassa le plus gros des morceaux de bois à demi calciné et s'éloigna de son père, vers la mer. Il entendit les pas de son père derrière lui, mais cela lui était égal. Il s'arrêta, tout au bord de l'eau, puis il entra, chaussures et tout. Il s'avança jusqu'à ce que l'eau monte plus haut que ses chevilles et que le reflux aspire ses pieds. « Aspire tant que tu voudras, sale garce !» Buddy leva le vieux tiseau au-dessus de sa tête, comme une massue, et l'abattit dans le déferlement d'une vague brisée. Le bois frappa l'eau et toucha le sable. Buddy en fut tout éclaboussé. Il frappa encore de toutes ses forces, et encore, il battit la mer mais sans laisser de marque. Pas de blessure, pas de cri de douleur. L'eau s'enfuyait en cherchant à l'entraîner, tout comme avant. Il leva encore une fois le gourdin, mais son père retint son bras. « Elle gagnera toujours, dit papa, si elle le veut. » Buddy lâcha la massue, le bois glissa et lui écorcha le mollet en tombant. La douleur fut cuisante mais bonne. « Ta maman va nous sonner les cloches à tous les deux en voyant nos chaussures mouillées. » Ils pataugèrent hors de l'eau et rentrèrent à la maison. Papa fut tué à Saigon par une grenade attachée sur un gosse de 5 ans. Maman se remaria avec un comptable et Buddy alla vivre avec eux à Modesto, pendant 2 ans. Jusqu'à ce qu'il soit mobilisé en 68. On l'envoya en Corée et il ne participa à aucun combat. Quand il quitta l'armée, il ne retourna pas chez sa mère, mais se rendit au Texas où il trouva un emploi dans une exploitation pétrolière. Il se disait que c'était aussi loin de l'océan qu'il put l'être. Mais, 5 ans plus tard, il était le chef d'une équipe de prospection offshore dans le Golfe, avec la mer autour d'eux tous les jours, pendant des mois. Allez savoir. Ainsi s'achève ce moment de lecture. Nous découvrirons l'ouvrage dont est tiré cet extrait lors du prochain épisode. Mais avant de se quitter, pourquoi pas une petite recommandation. Si on parlait musique, de métal et plus particulièrement de pochettes de disques, si je vous disais qu'on retrouvait sur celle-ci des thématiques communes. C'est ce que décrypte le Codex Metallum de Maxwell et Alt 236, un magnifique ouvrage de chez Webeck qui traite des thèmes récurrents dans l'imagerie métal. Sorcières, diables, vikings, masques, robots, sigils, etc. C'est richement illustré par Fortifame et Mathias Léonard, et c'est un livre indispensable dans la bibliothèque de tout métalleux ou de toute personne qui aime ces thématiques, et surtout qui veulent en savoir plus. Et pourquoi pas, avant d'acquérir l'ouvrage, ne pas avoir déjà quelques clés pour vous lancer dans cette exploration via la vidéo Art of Metal sur YouTube par les mêmes auteurs. Il est maintenant l'heure de se quitter. Je vous rappelle donc que vous pouvez me contacter par les réseaux sociaux, par mail. N'hésitez pas à partager et mettre un petit avis sur Apple Podcast. Et aussi, à passer sur la page Facebook ou le Twitter. Comme d'habitude, un petit coucou aux habitués, et cette fois-ci, Aline, qui a trouvé le roman dès la mise en ligne de l'épisode. De gros bisous. C'était donc Bruno, qui vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes littéraires, et qui vous dit à très bientôt dans... Easy Reader.
Une création TALFHO.